la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce magazine à la bonne heure en direct de Fréquence Mistral, digne aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'invités dans notre studio. Nous avons 8 personnes dans notre studio et j'en suis ravie. On va parler de l'INSPE et puis de ses étudiants. Et pour cela, donc, je vais donner la parole tout d'abord à Mélanie Cornet, formatrice INSPE, coordinatrice des enseignements master MEF. On dit comme ça, vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est. Et vous êtes entourée de nombreux étudiants et étudiantes qui vont nous parler évidemment de ces formations à distance. Bonjour.
Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de participer aujourd'hui à cette émission en compagnie de 7 étudiants donc, qui vont représenter l'INSPE aujourd'hui. Donc l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Donc on est dans le champ de la formation des futurs enseignants du premier degré. Et aujourd'hui, on est présent ici pour vous présenter un projet auxquels les étudiants ont participé dans le cadre de leurs enseignements autour de l'éducation à la citoyenneté, donc un projet e-twinning. J'aurai l'occasion peut-être de présenter un petit peu plus en détail ce qu'est ce dispositif. Donc c'est un projet qui s'intitulait « Éducation à la citoyenneté, célébrons ce qui nous unit », un projet européen.
Ça consiste donc en quoi
Voilà, donc e-twinning, en fait, c'est un dispositif qui est européen, qui fait partie d'Erasmus+. Et qui permet à des enseignants d'entrer en contact pour mener des projets à distance avec leurs élèves. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de faire vivre ces situations aux étudiants, donc futurs enseignants, de sorte qu'ils puissent s'approprier la démarche de projet d'e-twinning et qu'ils puissent ensuite la mettre en œuvre dans leur classe. Donc là, concrètement, moi, j'ai été en contact avec des formateurs d'autres universités, plus précisément l'université de Cagliari en Italie, donc en Sardaigne. J'avais également une enseignante de Bosnie-Herzégovine de l'université de Tuzli. Et puis, il y avait également une enseignante de l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne qui ont pris part à ce projet. Donc, on a co-construit ce projet ensemble. Et ensuite, nos étudiants des différentes universités se sont retrouvés à distance, en visio, pendant différentes sessions de formation pour pouvoir échanger et puis monter ensemble un projet autour de l'éducation à la citoyenneté. Et l'idée, c'est in fine de pouvoir le mettre en œuvre dans le futur. Alors bon, tout était mis en œuvre en tout cas pour leur faciliter la tâche. Donc ce qui est sûr, c'est que ça demande une grosse anticipation parce qu'en visio, on peut travailler donc en collectif. Donc tous les étudiants réunis en même temps sur des sessions, on va dire, en plénière. Et sur ce temps de travail, on organisait également des travaux en atelier. Donc on dispatchait les étudiants dans des sous-salles à distance pour qu'ils puissent travailler ensemble sur ce temps dédié à leur formation.
Donc c'est sur plusieurs projets, on va dire, sur plusieurs sessions. Est-ce qu'on peut donner la parole à ces différents étudiants pour nous parler de leur projet, comment ils ont vécu cette aventure ?
Eh bien, écoutez, tout à fait.
Alors, c'est Théa, c'est ça, hein ?
Exactement. Le projet qu'on a monté avec Alicia était tourné autour de la solidarité intergénérationnelle. On a travaillé avec 5 étudiantes italiennes, donc de l'université de Cagliari, comme l'a dit Madame Cornet. Et pour ce projet, nous avons décidé de faire appel donc à des résidents d'EHPAD, des différents donc lieux de résidence de chacune, et de les faire intervenir dans nos différentes écoles. Donc eux, leur objectif, ce serait de raconter des anecdotes, des souvenirs, de partager aussi des recettes de cuisine qu'on puisse faire avec les enfants en classe, et aussi proposer des chants. Et tout ça ramené à un projet de création de livres numériques en ligne qui serait partagé avec les étudiantes italiennes. Nous, on pourrait voir leur création et eux pourraient voir les nôtres aussi également. Et enfin, tout ça pour partager en visio avec les étudiants italiens et leurs élèves tout ce qu'on a pu collecter comme chanson, comme recette, et pouvoir voilà, en discuter, présenter nos élèves, voilà, faire vraiment un partage de culture, oui, exactement.
Donc en parlant français-italien ?
En parlant en anglais, mais voilà, en essayant de traduire au maximum pour nos élèves, bien évidemment.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou qu'est-ce qui vous a passionné dans cette aventure ?
C'était vraiment très intéressant puisqu'en fait, on a vraiment remarqué avec Alicia qu'on a une approche différente de la pédagogie en fonction des pays. Donc nous, en France, on a une certaine vision de comment amener l'enseignement ou en tout cas comment amener les choses aux élèves. Et puis les étudiantes italiennes, complètement d'une autre manière. Et on a pu échanger en anglais sur tout ça. Et ce qui nous a permis de construire un projet en finalité très solide, en accord avec nos valeurs. Et voilà, dans un souci d'échange et de partage vraiment concret.
Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce projet très solide et concret, Alicia ?
Alors, on a eu en fait plusieurs sessions où on a pu travailler avec les étudiantes italiennes. Donc, les sessions se commençaient toujours par une partie avec tous les étudiants réunis, donc de toutes les universités, et avec également nos responsables de formation qui nous expliquaient exactement ce qu'on devait faire pour réaliser notre projet. On a par exemple une activité où on a dû réaliser un logo de notre projet en lien avec notre thématique. Et on a ensuite, au sein de notre, enfin avec les étudiantes italiennes, au sein à chaque fois de nos salles, enfin des sous-salles du lab, on a pu donc chacune créer un logo. Et ensuite, on a voté pour notre logo préféré, qui était donc, enfin qui a été ensuite le logo de notre projet. On a pu également choisir le titre de notre projet, toujours en lien avec la thématique abordée. Et ensuite, on a énormément aussi échangé pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait donc faire à nos élèves au sein de ce projet-là.
Merci. Est-ce qu'on passe à un second projet ?
Oui, bonjour.
Si vous voulez vous présenter rapidement.
Bonjour tout le monde. Donc Jessica et moi qui est avec nous. Nous, notre projet portait sur la thématique les droits du citoyen. On a plus focalisé notre projet sur les enfants, comme c'est ce qui nous, enfin ce sont ces enfants que nous aurons plus tard dans notre classe. Et ce projet mettait en relation trois écoles. Donc une école d'Italie, une école de France et aussi une école de Bosnie. Donc ici, le but, c'était de sensibiliser les élèves aux droits fondamentaux, mais aussi les adultes. Donc nous, dans notre projet, les élèves ont exploré les six droits de l'enfant, donc à travers des jeux, des activités pédagogiques, pour ensuite produire un mur local reprenant tous ses droits et aussi des vidéos internationales. Voilà.
On peut rappeler les six droits des enfants ?
Alors, on a le droit d'être protégé, le droit à la santé, le droit d'avoir une identité,
le droit de jouer, le droit à l'éducation et le droit au repos aussi. Voilà, le but, c'était aussi, c'était vraiment donc de faire... comprendre aux enfants ce qu'est un droit, parce que pas tous les enfants ont conscience de ce que ça veut dire. Et puis de les faire explorer, vivre et représenter ces droits dans un contexte multiculturel, multilingue. Et d'impliquer les parents aussi pour renforcer les liens et leur permettre de partager ces valeurs ensemble. Donc nous avons choisi d'organiser notre foire autour des droits. Nous avons choisi la journée du 20 novembre, qui est la journée mondiale de l'enfance, et qui est une date célébrée en Italie, en France et également en Bosnie, pour que cette date offre aux trois écoles du projet un point de référence commun. Donc le but de ces activités, c'était de les faire travailler en groupe, interagir, explorer les droits, impliquer les parents. Et donc la finalité, ça a été le mur final européen des droits, un mur numérique où les trois écoles étaient regroupées. Et ce mur était en fait un symbole de communauté et de participation.
Ça ressemble à quoi un mur numérique ?
Alors chaque station explorait en fait un droit et produisaient des cartes colorées et des vidéos qui étaient affichées sur le mur. Voilà. Et c'était donc pour aider les enfants à comprendre que certains droits les concernent, mais qu'il y a aussi des droits qui concernent toute la communauté.
Bien, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, j'allais dire que pour créer ce mur, on a utilisé l'application Miro.
Oui.
L'outil numérique Miro pour...
Qu'est-ce que
justement.
C'est ? Pardon.
Bah justement, c'est une application pour permettre de créer le mur en question qu'on souhaitait faire avec les élèves et les parents.
Et nous avons également créé un logo, comme nos camarades, qui représentait le thème de notre projet. Et nous avons utilisé différents outils numériques, Canva, Padlet, WhatsApp, pour échanger aussi avec... avec les autres enseignants. Et donc, ça nous a permis de développer ces compétences qu'on pourra aussi réutiliser dans notre futur métier.
Donc, j'en profite justement pour redonner un petit... replacer finalement ce projet e-twinning dans un contexte un petit peu plus vaste. Donc, ce projet e-twinning... il a trouvé sa place dans l'UE3, donc un enseignement dédié au contexte et à l'innovation pédagogique, et plus précisément dans un cours optionnel qui s'appelait « Numérique et développement de l'autonomie dans les apprentissages ». Donc il y avait des objectifs assez précis par rapport à cette UE. L'idée, c'est de faire en sorte d'amener les étudiants, donc futurs enseignants, à diversifier leurs pratiques pédagogiques grâce au numérique, à utiliser des outils numériques à visée créative, et à intégrer aussi des méthodes pédagogiques dites collaboratives dans leurs pratiques pédagogiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser le numérique aussi pour faire en sorte de prendre en compte la diversité des élèves et s'adresser au plus grand nombre. Donc bien entendu, l'objectif, c'est de permettre à des futurs enseignants de collaborer au-delà des frontières et de vivre une expérience interculturelle authentique et donc de co-construire ensemble des projets. Donc ça mobilise un certain nombre de compétences qui sont utiles aux futurs enseignants. Peut-être qu'ils vont pouvoir justement en témoigner de ces compétences qu'ils ont pu mobiliser au travers de ce projet.
Avec plaisir. Alors, qui prend la parole ? Alors, ça y est, on a plus que des gens muets à la radio, c'est difficile après.
En ce qui concerne donc les compétences qu'on a pu acquérir grâce au projet e-twinning, elles sont vraiment diverses et variées. Donc, comme l'a souligné Madame Cornet, on a déjà réfléchi à notre usage du numérique et à l'application qu'on pourrait en faire en classe. En fait, il s'agissait ici vraiment aussi de réfléchir à comment utiliser le numérique pour un usage personnel, de manière intelligente, et à faire apprendre aux élèves à l'utiliser de manière également aussi intelligente, à bon escient et de manière créative aussi. Mais il n'y a pas seulement ça, pas forcément que sur l'usage du numérique, on a aussi vraiment eu un volet sur la collaboration. En tant qu'enseignant, on peut être parfois et très souvent isolé dans notre pratique professionnelle, mais c'est important de dire qu'on travaille aussi en équipe pédagogique et c'est ça qui enrichit notre pratique professionnelle à aujourd'hui dans nos projets, dans nos années, dans notre carrière en termes général. Donc pouvoir avoir une première approche, notamment interculturelle aussi, c'est un double volet complètement gagnant pour nous donc de pouvoir collaborer avec d'autres enseignants et encore plus venant d'autres pays européens. Donc c'était très intéressant.
Merci Théa. Est-ce qu'on poursuit avec les deux autres projets qui n'ont pas été encore dévoilés ? Alors, qui prend la parole ? C'est Lucas.
C'est bonjour, ça, bonjour Lucas. À tous. Alors, pour notre projet, j'étais avec Lisa et nous étions aussi avec quatre autres étudiantes d'Italie. Donc le thème de notre projet, c'était prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et donc on l'a articulé autour de
plusieurs activités que les élèves pourront mener en classe. Donc tout d'abord, l'objectif, c'était de les faire travailler sur les émotions, sur le vocabulaire des émotions et savoir les reconnaître. Aussi, on a voulu travailler sur le bien-être en termes généraux et le bien-être aussi par rapport aux autres. Comment vivre ensemble. Ce sont des thématiques qui sont particulièrement ancrées dans l'EMC, donc l'éducation morale et civique, qui sont au cœur de l'école d'aujourd'hui. Et donc concrètement, les élèves avaient pour objectif de créer un livre qui s'appelait « Le bien-être ensemble », qui était en collaboration avec les autres élèves donc d'Italie. Ça faisait un parallèle avec les deux cultures. Et aussi, ils avaient pour objectif de créer des petites vidéos bienveillantes pour se rappeler du bien-être ensemble. Et on avait aussi travaillé sur des cartes, des émotions, pour les avoir en tête au cours de l'année, qui seraient affichées au sein de la classe.
Et ça, c'est très, très important, je pense, de faire reconnecter les enfants à leurs émotions. Et... Oui. Voilà, c'est pour faire un bon citoyen, il faut aussi être reconnecté à ses émotions. D'autres choses à rajouter ?
Non, voilà, on est globalement très heureux d'avoir pu participer à ce projet avec surtout d'autres étudiants italiens.
J'imagine que ça vous apprend aussi énormément de choses. Ça vous apporte des bénéfices, évidemment.
Ben oui, déjà d'apprendre à l'enseigner, c'est déjà de savoir nous-mêmes reconnaître nos émotions, nos sentiments, et pour pouvoir mieux les apprendre et les maîtriser aux élèves. Donc oui, ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes. Et voilà.
Merci. Donc c'était Lucas et
Lisa.
Lisa, merci à vous deux. Il nous reste Yanis. Bonjour Yanis.
Oui, bien sûr, bonjour.
Alors si un projet, lequel ?
Alors mon projet était axé sur le partage en fait des langages, des langues et de la culture. Et l'objectif en fait à terme c'était de créer un jeu de cartes dans différentes classes, donc italiennes et françaises. Un jeu de cartes où les élèves en fait décident, un jeu de memory pardon, où les élèves décidaient ce qui devait apparaître sur les cartes, sur les différentes cartes, en s'inspirant sur leur environnement proche, donc que ce soit les monuments ou alors des termes dans leur langue d'origine respective. Et en fait, tout ça, c'était donc on l'a mis en place à travers divers outils numériques, comme mes collègues les ont très bien présentés. La vraie difficulté donc, de ce projet, c'était la communication, donc, qui a été donc, avec un pays étranger, l'Italie, mais qui a été très facilitée en fait, avec tous ces outils numériques. Donc, et voilà.
Un jeu de cartes memory, alors, avec aussi par rapport aux émotions aussi, ou...
Alors, pas du tout, non. Une autre thématique. Donc, ce projet, en fait, il a été travaillé avec d'autres étudiants italiens. On n'avait pas vraiment d'échange entre nous sur ces projets-là. Mais nous, on s'est axé vraiment en fait, sur le partage culturel entre les différentes classes.
Bien. Vous reprenez la parole, Mélanie.
Oui, donc c'est vrai que merci. Yanis, la spécificité de son groupe, c'est qu'il était dans un groupe dans lequel les étudiants ne parlaient pas très bien, n'avaient pas un très bon niveau d'anglais. Donc il me semble qu'il y a eu quelques difficultés à ce niveau-là. Donc la langue d'échange, la langue de communication pour Yanis dans son groupe, c'était l'italien, puisque Yanis maîtrise cette langue. Donc je sais que ça a été peut-être un petit peu compliqué de réussir à comprendre finalement les attendus, parce que au sein de la formation, moi en tant qu'enseignante et puis mes partenaires de projet, nous communiquions donc en anglais. La langue de communication en visio était l'anglais. Donc il y a eu quelques petits ajustements qui ont dû être faits pour faire en sorte que chacun comprenne bien les attendus de la formation. Mais finalement, tout le monde a réussi avec brio, accompli avec brio. La production finale a été partagée aussi en visio. Donc chaque groupe a réalisé une vidéo dans laquelle ils présentaient leur projet. Et donc le dernier temps de la formation en ligne, c'était une présentation de ces différentes vidéos, avec également un temps d'évaluation des productions par les différents participants. Donc peut-être si quelqu'un veut témoigner aussi sur ce volet de l'évaluation, qui était aussi un de nos objectifs en tant que formateur, donc pour voir aussi finalement si ça a porté ses fruits au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que vous pouvez vous retirer en tant qu'étudiant de ce projet sur ce volet-là ? Peut-être Théa ?
Oui, sans souci. Lors de la dernière session, donc nous avons fait nos présentations de projets. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a suivi, donc, bien évidemment, le déroulé de la session en entier. Et on a pu émettre des avis et les partager à tout le monde.
aussi donner nos préférences, donner des avis constructifs. C'est ce qui a été aussi un gros plus de ce projet, c'est que toute la mise en commun des différents projets, des différentes activités nous serviront potentiellement dans nos futures carrières. Donc pouvoir aussi faire un retour sur ça, avoir des retours aussi sur ces idées, c'est ce qui est à mon sens le plus enrichissant à ce niveau-là. Donc pouvoir construire un projet, avoir un retour dessus constructif, c'est ce qui est le plus important, je pense.
Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'action européenne e-twinning, elle a plus de 20 ans, puisqu'elle a été créée en 2005. Et cette action e-twinning propose un réseau social professionnel pour les enseignants d'Europe, donc des enseignants de 46 pays différents, donc c'est quand même assez important. Et l'idée, c'est d'entrer en contact avec d'autres enseignants de pays d'Europe pour réussir à mener des projets ensemble via le numérique. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de numérique, mais l'idée, c'est aussi de former les futurs citoyens de demain, d'ouvrir les élèves à l'altérité, à la curiosité, de favoriser la coopération, la collaboration entre classes. C'est aussi permettre aux élèves de voir les autres différemment, de s'intéresser à d'autres cultures et de partager des mêmes valeurs. Donc, bien entendu, ça peut se faire uniquement par le biais de la plateforme eTwinning, qui est une plateforme sécurisée sur laquelle on peut échanger. C'est comme un blog de classe, en fait, hein, qui est partagé entre les différentes classes partenaires. Mais on peut aussi très bien passer par l'envoi de colis avec des éléments de notre propre pays. J'ai le souvenir, alors moi, en tant que formatrice, en fait, je suis à l'origine professeure des écoles avant d'être formatrice. Donc j'ai pu mener aussi des projets comme ça avec mes classes et envoyer, par exemple, se poser la question avec nos élèves, qu'est-ce qui est caractéristique de notre territoire ? Donc, on allait aussi au marché local pour voir concrètement qu'est-ce qu'on trouvait au marché qui correspondait à notre territoire. Donc, ensuite, on mettait un petit peu aussi les parents dans la boucle, se dire que l'école, elle s'ouvre aussi sur le monde et sur ce qui nous entoure pour donner aussi du sens aux apprentissages des élèves. Et donc, dans notre petit colis, j'ai le souvenir qu'on avait mis un bouquet de lavande, un petit pot de miel. Ce genre de choses qui concernent notre territoire. Et ensuite, en retour, quand on ouvre un colis qui arrive d'ailleurs, il y a un petit peu de curiosité, d'excitation aussi de la part des élèves. Et on a aussi des choses tangibles. Et de la même manière, ensuite, les élèves peuvent créer des choses pour la classe partenaire. Donc, autour, bien entendu, de compétences spécifiques. Hein. Je pense, par exemple, un jour où j'avais reçu un sapin en papier qu'on a déplié et sur lequel on trouvait des petites boules qui étaient collées et qu'on soulevait donc les petits papiers en forme de boules de Noël pour retrouver des caractéristiques de la culture espagnole. Donc il y avait El Turrón, par exemple. Donc on apprenait à la fois un mot en espagnol et puis on voyait à quoi ça correspondait, qui correspondait aux traditions culinaires du pays avec lequel on était en mesure d'échanger. Donc de la même manière, on peut très bien aussi partager sa culture à l'aide de mascottes, par exemple, échanger une mascotte et puis faire vivre, retracer la journée d'un écolier, tout simplement, et puis se rendre compte que dans tel ou tel pays, on porte l'uniforme, s'interroger sur justement pourquoi est-ce que dans des pays on porte l'uniforme, qu'est-ce que ça permet, et finalement, de voir les choses un petit peu différemment. En tout cas, c'est des pratiques qui sont très enrichissantes et j'espère que les étudiants qui sont autour de cette table pourront mettre en œuvre ça dans leur pratique plus tard, sachant que il y a aussi un réseau d'ambassadeurs e-twinning, dont des enseignants experts qui ont l'habitude de mener ce genre de projet, qui sont prêts à accompagner les enseignants qui se lancent dans ce type de pédagogie pour les soutenir et qu'il y a un partage d'expérience qui se fasse de cette manière-là.
Merci Mélanie Cornet pour toutes ces informations capitales. Je voulais revenir sur ce projet e-twinning universitaire.
Il a 20 ans d'existence. Est-ce qu'il a 20 ans d'existence à l'INSPE ?
Eh non, en fait, c'est assez récent, en fait, que ça... C'est la deuxième année, juste, que e-twinning a été introduit dans la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que, voilà, on a conscience aussi de, pour former les enseignants du 21e siècle, bon, ben, il faut aussi que, finalement, on fasse aussi entrer ces compétences clés, la communication, la collaboration, le développement de l'esprit critique, c'est des compétences phares. Et de la même manière aussi, faire en sorte de maîtriser une langue dans leur pratique, ils vont avoir besoin d'enseigner l'anglais. Le fait de communiquer dans la langue avec d'autres étudiants, ça permet aussi de développer les compétences linguistiques, parce qu'ils sont en situation réelle de communication. Et quelque part, c'est aussi lever des freins par rapport à cet enseignement. C'est prendre confiance en soi pour être en mesure d'enseigner aussi les contenus qui font partie des programmes d'enseignement. Parce que des fois, voilà, on ne se sent pas forcément à l'aise avec cette langue-là. Et c'est voilà, faire en sorte de montrer qu'on peut y arriver. Donc effectivement, c'était un peu challengeant de se dire qu'ils allaient créer un projet comme ça avec des étudiants d'autres universités. Mais voilà, moi j'avais toute confiance en eux, en leur potentiel pour y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt fiers de l'expérience vécue et du résultat obtenu.
Donc, pour revenir à ces étudiants qui sont aujourd'hui dans notre studio, vous êtes tous à l'INSPE de Digne-les-Bains.
Oui.
Voilà. Donc là, c'est votre deuxième année. Il vous reste combien à faire pour être enseignant ?
Donc, nous, on est sur notre dernière année. Nous passons le concours en mars. Donc, on a nos épreuves écrites. Et ensuite, si nous sommes admissibles aux écrits, nous pouvons aller aux oraux.
Donc ça veut dire que très bientôt, vous pourrez avoir un poste. Comment on dit maintenant, alors, quand on enseigne dans le primaire ? C'est quoi l'appellation ?
Professeur des écoles du premier degré.
Professeur des écoles du premier degré. J'ai envie de vous demander, c'est vrai que par rapport à ce qu'on entend tous les jours aux informations, est-ce que vous avez toujours cette motivation du début de votre formation ou est-ce que vous avez quelques craintes quant à votre devenir dans l'enseignement ?
Je pense que notre motivation, elle est nourrie au fil de nos expériences dans les classes, puisque cela fait maintenant 2 ans que nous avons pu avoir plusieurs expériences dans des classes, notamment au travers de stages, et également en tant que contractuel chargé alternant, puisque dans notre promotion cette année, il y a 7 étudiants qui ont leur classe tous les lundis en responsabilité, donc dans une classe du département. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. C'est un réel pied dans le métier de pouvoir déjà enseigner à des élèves à hauteur d'un jour par semaine avant l'année prochaine. Puisque si on a le concours à la fin de l'année, l'année prochaine, on aura une classe à plein temps pendant toute l'année. Donc c'est très important de pouvoir déjà rentrer dans le métier et...
Vous n'avez pas de soucis, de peur de ne pas être à la hauteur au niveau disciplinaire ? Je ne sais pas comment on peut dire, il n'y a aucune appréhension. Vous êtes suffisamment formé à la communication pour...
Je pense, comme tout professionnel, bien sûr qu'on a des craintes. On ne peut pas être à 100% sûr de soi quand on travaille au contact de personnes, et là encore plus particulièrement d'enfants. Maintenant, il faut avoir aussi conscience de ses forces, et pouvoir se dire que en fait rien ne peut entraver si on essaye en tout cas de faire de son mieux et de pouvoir comme l'a dit Alicia, on est conscient aussi de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans les classes, ou en tout cas plus ou moins, puisqu'en fait on a déjà un petit pied dans cette situation là donc il faut tenter, il faut essayer, et puis on verra bien la suite.
Merci. Le mot de la fin, Mélanie.
Oui, alors il y a une petite information que je profite de ce micro finalement pour communiquer sur le territoire de l'ouverture d'une licence professeur des écoles à la rentrée prochaine sur le site de l'INSPE de Digne-les-Bains. Donc c'est vrai que comme c'est nouveau, faut le savoir. Donc s'il y a des lycéens actuellement qui veulent devenir professeurs des écoles, il faut qu'ils sachent qu'ils pourront se faire former sur le territoire.
À partir de la rentrée 2026.
C'est ça, 2026, pour la première année, puis ensuite ça suivra sur les 3 années de licence. Voilà, donc le site de DIN se développe, on va dire.
Mais est-ce qu'on peut donner davantage de renseignements sur l'INSPE, en fait, combien d'étudiants ?
Alors, à la rentrée prochaine, ce sera une promo de 40 étudiants qui sont attendus en première année de licence. Voilà, après, on verra bien les effectifs à la rentrée. Mais voilà, en tout cas, c'est, je pense, une belle opportunité sur le territoire parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas non plus une offre de formation aussi importante que ça sur nos territoires basalpins. Donc, c'est aussi une chance pour eux d'avoir cette nouvelle formation qui ouvre, sachant que jusqu'à présent, en fait, pour rentrer en master MEF, on pouvait avoir n'importe quelle licence, hein, voilà, n'importe quel bac plus 3 pour pouvoir entrer en master. Et cette fois-ci, on va avoir quelque part une formation qui va être plus appuyée puisqu'on va commencer à les former dès la première année de licence. Donc une évolution positive de la formation des enseignants. Voilà. Et puis, bien entendu, y a aussi d'autres caractéristiques. Hein, c'est-à-dire que maintenant, au niveau de la première année de master, les étudiants, en fait, seront rémunérés à hauteur de 1400 euros par mois. Et de la même manière, les Master 2 donc, seront en responsabilité en classe sur 2 jours par semaine et avec une rémunération aussi de 1800 euros. Donc l'idée, c'est aussi d'inciter les jeunes à entrer dans ce type de métier. Enfin voilà, moi, je suis, comme je vous disais, professeur des écoles avant tout. C'est un métier passionnant, donc avec effectivement... ces difficultés, mais aussi surtout le plaisir qu'on a de voir les élèves évoluer, de leur transmettre des connaissances, de former les citoyens de demain. C'est un beau challenge. Et voilà, moi j'ai plaisir en tout cas de transmettre ça aux étudiants que j'ai dans mes cours. Et j'espère que le plaisir se transmet aussi de cette manière-là.
Merci. Merci à tous d'être venus parler de votre futur métier et de cette aventure e-twinning. Et puis, longue et belle route dans l'enseignement. Donc, merci à Théa, Célia, Lucas, Mélanie, Alicia, Lisa, Jessica et Yanis. Et puis, j'espère que vous reviendrez à la radio pour parler d'autres projets. Merci.
Merci à vous.
Bonne
merci.
Journée. Au revoir.
À la bonne heure, le MAG Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.